Ah bah c'est la dernière. Alors l'UMP. Votez non, c'est votez Bush.
Et puis c'est pas tout en plus, c'est pas tout. C'est qu'en plus, on nous demande de signer un traité qui ne prévoit même pas de mettre fin à toutes les tirelires cachées où vient s'exfiltrer le gros argent qui échappe à la réglementation européenne. Autrement dit, si j'ai plein de pognon, je peux aller en Andorre, à Monaco, au Luxembourg, en Suisse, pour mettre tout l'argent qui échappera aux quelques rares contributions auxquelles m'oblige la nouvelle constitution, éventuellement. Donc, tant qu'on n'a pas mis fin à tous ces paradis fiscaux, c'est pas la peine de nous demander de signer un truc qui ne s'applique qu'à nous, les gens de peu, et qui permet à tous les autres d'échapper à la rigueur de cette éventuelle constitution. Non, il faut d'abord envahir Andorre, Monaco et la Suisse et le Luxembourg aussi. Il faut les envahir. T'entends, Chirac ? Allez, on les envahit !
À Hervé de Bordeaux. C'est par rapport à ce matin sur France Culture, j'ai entendu qu'on on redoutait les conséquences de l'ultralibéralisme. Alors, on les redoute pas, hein, on les vit déjà, premier point. Quant à Alexandre Adler, sa chronique, hein, qui traite tous ceux qui voteront non bientôt, il nous traite de péronistes, donc de fascistes. Voilà, ben, j'aurais envie de dire que ben, je me sentais pas péroniste, hein, et que j'allais voter évidemment non. Et ben, j'invente un autre mot par rapport à l'altermondialisation. J'irai voter non et je me sens très alter-européen. Bye bye.
C'est pour répondre au lecteur du Nouvel Obs, là, qui nous parle de l'article 3 et du plein emploi. Donc il faut comprendre que dans cette constitution, le plein emploi, il ne doit pas amener à une accélération de l'inflation. Et dans les documents de la Commission européenne, on trouve ce qui s'appelle le NERU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Et ça veut dire qu'il ne faut pas il faut pas baisser le taux de chômage en dessous d'environ 10%, parce qu'au-delà, on risquerait d'augmenter l'inflation. Et l'inflation, c'est le principe sacro-saint que doit respecter la Banque Centrale Européenne. Elle doit donc lutter contre l'inflation. Donc le plein emploi de la Constitution, c'est 10% de chômeurs. Voilà, au revoir.
Daniel, salut, Franck dans les Alpes de Haute-Provence. Oui, il y en a qu'on n'entend jamais sur ton répondeur au sujet de l'Europe, ce sont les agriculteurs. Moi, je suis paysan, c'est-à-dire que, en fait, l'Europe, soi-disant, a été une chance pour le monde paysan. L'Europe a détruit, a tué le monde paysan pour nous transformer en agriculteurs comme technocrates. C'est-à-dire qu'on nous a transformés en mecs pour remplir des dossiers et des papiers pour toucher des primes. Mais c'est fini, on connaît plus la terre, on connaît plus les arbres, on connaît plus le temps, on connaît plus le climat, on n'est plus des paysans. L'Europe a tué les paysans. Il faut arrêter de dire que l'Europe a été une chance pour le monde paysan. Le monde paysan a été abattu, mais tu peux pas savoir, c'est quand tu vois le monde, les agriculteurs d'aujourd'hui, plus rien à voir avec ceux qui travaillaient la terre. Oui, c'est ça, on est des agriculteurs sous perfusion, et si on remplit bien les papiers, c'est merci l'Europe. Alors l'Europe, ben écoute, je l'emmerde, moi j'en veux pas de l'Europe. Moi je veux rester paysan et pas devenir agriculteur. Ciao.
Non. On a gagné.
Ben on fait quoi maintenant? Je sais pas.
On a gagné.
Rebelle, celui qui dit non au gouvernement, à toute institution. Eh bien c'est fini, l'État réforme même le dictionnaire. Nouveau slogan du oui de droite, entendu ce matin à France Inter, le oui rebelle. Et puis nous, on est des affreux conservateurs. On veut conserver nos CDI, notre sécu, nos 35 heures. Marie-Paul, une affreuse conservatrice. Au revoir.
C'est Philippe de Saint-Dizier. Alors, je suis prof d'histoire géo et d'éducation civique. Et comme beaucoup de mes collègues, j'utilise régulièrement une revue qu'on appelle Textes et documents pour la classe, auquel le collège est abonné. Or, en lisant le Canard enchaîné de ce matin, qu'est-ce que j'apprends? Le numéro spécial de cette revue qui devait traiter de l'Union européenne vient d'être censuré. Alors au départ, il devait y avoir un partisan du non et un partisan du oui qui devaient s'exprimer et exposer leurs différents arguments. Alors au bout du compte, le cabinet du ministre de l'Éducation nationale a décidé de ne pas publier les arguments des partisans du non, sauf s'il acceptait d'en supprimer certains. Vous rêvez pas, on est bien en France, en l'an 2000, et on va vous faire aimer le troisième millénaire. Ciao!
Ici, c'est Jean-Claude, Vendéen. Hier, en écoutant les messages au sujet de la Constitution, j'ai été choqué. Choqué d'entendre un auditeur déclarer « Votez oui, votez non, moi, je m'en fous. La démocratie meurt du « je m'en fous ». Et quand je pense que nos aïeux se sont battus pour le droit de vote, moi je voterai oui, non pas pour m'opposer à ceux qui... du non, puisque moi aussi je vous l'ai dit, j'étais vendéen. Mais parce que je crois à cette constitution qui redonnera, entre autres, le pouvoir aux citoyens en renforçant le rôle du Parlement. Mais il va falloir se prendre en main, continuer à se battre et ne pas tout attendre des autres. Merci Daniel, merci France Inter. Bonsoir.
Merci, cher auditeur. Voilà, des messages sérieux, compétents, rigolos, contestataires, résistants, tout ce qu'on veut sur la Constitution. Ça continue, vous remplissez le répondeur au-delà du bord, ça déborde du répondeur et c'est passionnant. Il faut dire qu'on a, si le répondeur de la bas si j'y suis était le moyen de faire des sondages, ce serait à 90% non. Il faut bien dire les choses. Alors, si vous êtes partisan du oui, ben voilà, vous connaissez le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Nous, aujourd'hui, on part, mais alors vraiment dans un autre, aux antipodes presque de ces préoccupations, puisque d'abord on va en Suisse, alors là, il n'est pas question de tout ça, hein. En Suisse, et on va en Suisse à l'occasion de la publication, de la republication de deux livres, d'une femme qu'on avait rencontrée il y a très longtemps dans la base, si j'y suis, c'était en 1992, ouais, eh oui, qui s'appelle Griselidis Real. Et Griselidis Real, c'est une femme tout à fait étonnante, qui était à la fois une prostituée et une femme engagée, une prostituée engagée, et qui vit toujours à Genève. À l'époque, on l'avait rencontrée à Paris, j'étais allé la voir à Genève, on avait rapporté un certain nombre de reportages stimulants, on va dire, et jubilatoires. Aujourd'hui, elle republie deux livres d'elle sont republiés, Le Noir est une couleur, aux éditions Verticales, et puis Les Carnets Noirs, qui sont maintenant intitulés Carnets de Bal, où Griselidis chaque jour notait le tarif qu'elle demandait à ses clients et leurs particularités, leur poids, leur comment il faut, parce que quand il y en a beaucoup, il faut un petit peu d'ordre, et c'est un véritable document humain, on va dire. Et c'est un peu là-dedans qu'on va. C'est un peu là où on va aujourd'hui, avec celles qui sont toujours dans ce quartier de Genève qu'on appelle les Paquis à Genève, avec Sylvain Savolainen, qui habite, lui, à Genève, qui est reporter, et qui est allé voir les filles de la rue, des Paquis de la rue de Berne, bien connue à Genève, avec une question. Il avait le droit à une seule question. Le premier client, comment ça s'est passé avec le premier client? C'est notre sujet aujourd'hui, c'est notre balade aujourd'hui, jusqu'à 18h sur Inter. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'était Zindine. Et voilà, je suis un fidèle auditeur de là-bas, si j'y suis, et puis mon frère aussi. Et puis, comme il vient de nous quitter, je voulais lui rendre un petit hommage par l'intermédiaire de la radio. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Voilà, il s'appelait Faro, c'est un mec bien. Il nous a laissé tomber dans sa 50e année. Enfin, voilà, et puis c'était mon frangin, et il me manque, quoi. Voilà, et je remercie Daniel pour tout ce qu'il fait et tout ce que vous faites tous. Salut, au revoir.
Allons droit au but. Le gardien de l'équipe de France de football, toujours prêt à dire une connerie, déclare à la presse qu'il a peur d'aller jouer un match en Israël à cause des attentats, tout ça. Il n'a pas peur d'attendre des heures à un barrage militaire israélien. Il n'a pas peur de se taper la tête contre le mur de l'apartheid. Il n'a pas peur de se faire voler son terrain. Non, toutes ces peurs, c'est le quotidien des Palestiniens. Barthez, il n'a pas peur de tout ça. Il a peur des attentats. Ah, la peur du touriste qui va prendre ses quartiers à l'hôtel Hilton de Tel Aviv, sans savoir qu'à cet endroit, le jardin et la piscine occupent le site d'un ancien cimetière de Jaffa. Un cimetière de Palestiniens noyés dans une piscine israélienne. Cette information authentique est tirée de Figures de Palestiniens, un livre de l'historien Elias Sambar. Oh Fabien, quand tu plongeras dans la piscine du Hilton de Tel Aviv, n'aie pas peur si tu entends des voix. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. C'était Djamil de l'île de la Réunion.
Je suis Katia, infirmière aux urgences du CHU de Rennes. 11 jours de grève aux urgences, notre ras-le-bol est toujours aussi grand. Les patients sont toujours en maltraitance sur des brancards dans les couloirs. Aujourd'hui, 29 mars, des services comme la chirurgie vasculaire expriment leur colère avec nous. L'hôpital, géré comme une usine, ça ne marche pas. Moins de lits, moins de soignants, c'est plus de douleurs.
Voilà, salut Daniel et toute l'équipe et tout le monde. Nous sommes à Besançon devant le rectorat. Et oui, ce matin, nous sommes allés devant notre lycée et la rectrice avait envoyé les policiers pour nous accueillir et nous faire rentrer gentiment dans les rangs. Évidemment, on a refusé. Et les élèves qui bloquent le lycée depuis 4 jours nous ont proposé de les accompagner au rectorat. Voilà, nous sommes devant le rectorat. Et on rejoint en cela tout ce qui se passe dans d'autres villes. Voilà, le combat continue, Fillon, tu ne vas pas nous endormir. Salut.
Ouais, Daniel, salut, c'est Margot, ben, de Tarbes à nouveau. En réponse à ce charmant projet de loi Fillon, ben, deux des plus grands lycées de Tarbes sont bloqués par les élèves. Tous les professeurs ont annulé leurs cours et voilà, c'est un gros bazar. Et d'accord, la loi est passée, mais on ne laissera pas faire. Voilà, ciao.
Look at that. Look at that.
What a nice.
Look at that.
Thank you very much. Thank you very much.
C'est combien, bonsoir?
100 francs.
Et pour 100 francs, qu'est-ce que...
Je fais l'amour à la tête de quelqu'un.
Oui? Qu'est-ce que ça sera l'amour?
C'est... Tu baisses mon chat, à derrière, d'avant, toutes les positions. J'ai ce soir. On y va?
Surtout parler.
Ah bah oui, mais il veut seulement parler avec Sylvain Sauvalainen aujourd'hui, là-bas si j'y suis, et les infirmières de la sexualité publique.
On va vous gêner, vous venez entrer.
Comment, vous dites?
Vous pouvez juste passer le linge.
Vous voulez que je passe le linge?
Vous passez le linge pour que vous puissiez m'essuyer. Oui. Ça, votre impurité. Attendez, hop. Merci. Ah, ça ne vous gêne pas, ça va?
Non, moi, de mon côté, ça va. Vous prenez une douche après, avant les clients?
Je prends toujours une douche avant et après. C'est un rituel.
Et
abomination, mais l'œil en coin. Déchéance humaine, mais l'esprit s'embrase. On a tout dit et tout décrit et tout ressenti sur la prostitution. Ici, on les pourchasse. Là-bas, à Genève, elles ont pignon sur rue, ces infirmières de la sexualité publique. C'est comme ça que l'une d'elles, qu'on va rencontrer avec Sylvain, se qualifie elle-même. On pourrait dédier cette heure à Aspasie. On s'est renseigné à savoir qui était Aspasie. D'abord Aspasie, on l'avait découvert à l'époque, il y a déjà bien longtemps, en 92, à Genève, que c'était un centre pour la promotion, l'accès à la citoyenneté des personnes prostituées. Et ce petit centre, Aspasie, a été fondé à l'époque par Griselidis Réal. Et Griselidis Réal, au fond, c'est une figure de ces années 70 où l'on voulait que la prostituée pût être aussi une militante pour le droit des travailleuses du sexe. Ça a été tout un combat dans ces années-là, un combat qu'on a oublié. Et pour la Suisse, eh bien, Griselidis en est une figure. Elle est aussi une écrivaine tout à fait remarquable et dont les livres sont republiés ces jours-ci. Donc Aspasie, c'est un mythe plutôt qu'une véritable figure, a été à la fois une courtisane et une militante et une féministe. Putain et féministe, ça c'est quand même quelque chose qui correspond pas tout à fait à nos catégories. Nous, c'est langue de pute. Eh ben, c'est langue de pute. Jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'elles disent quand on leur pose la question? La première fois, le premier client, comment c'était?
En face d'elle dans le quartier Saint-Louis, elle habitait, je me rappelle, aux environs de minuit. Moi, mes cousins, nous la regardions en silence à travers les jalousies. Adossée au magasin, elle fumait avec élégance. Nous apprenions nos poésies passionnément, nous y pensions à la paix, point de suspension. Qu'elle était bien, qu'elle était bien, la putain. Posée comme une contrebasse dans les bras d'un artiste, elle avait l'air de faire des passes dans une chanson réaliste. Moi, mes cousins en pyjama au cinéma, nous l'avions prise pour femme. Son parfum de violette, quand on entr'ouvre la fenêtre, nous descendait au fond de l'âme. Passionnément, nous y pensions à la paix, point de suspension. Qu'elle était bien, qu'elle était bien.
Et votre premier client, première passe, vous vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens, mais c'était il y a longtemps. Très longtemps.
Il y a combien de temps?
Enfin, il y a très longtemps, pas si longtemps que ça finalement. Il y a 5 ans, 6 ans, je ne me souviens plus exactement. 5-6 ans.
Ça s'est passé comment?
Bah, très bien, c'était naturel, c'était facile, c'était sympa. Je suis tombée sur des gens sympas, c'était des Italiens, donc... La vie est bien et
des gens sympas, des Italiens, ils étaient plusieurs.
Ils étaient, c'était des copains en fait. J'en connaissais un et puis, comme c'était ma première journée de boulot, en fait, il a ramené ses copains pour me donner du punch en fait, pour pouvoir avoir un peu d'argent dans ma première journée en fait.
Donc votre première fois, il y avait plusieurs copains.
Il y avait plusieurs copains, mais pas tous en même temps, un après l'autre. C'était un peu l'usine, mais moi je l'ai pas vécu comme ça du tout parce que c'était vraiment. C'était une super bande de copains sympas avec qui on s'est bien amusé, quoi.
Ça a dû être un peu éprouvant, la première fois
Non. Non, pas pour moi, non. Bah, c'est du sexe, moi j'aime bien faire l'amour. Et c'est vrai que là, c'était vraiment des gens sympas, donc je me suis vraiment bien amusée avec eux, en fait. Pour moi, c'est vrai qu'ils étaient faciles, donc ça n'a pas duré très longtemps. Le rapport n'a pas duré très longtemps. Donc, voilà, c'était presque une formalité, en fait.
Vous aviez une montre qui vous indiquait le temps?
Non, j'avais pas une montre, mais J'avais en fait une patronne qui était dans la cuisine, qui attendait après chaque client en fait. Et dès qu'un client avait fini, et ça s'entend, hein, elle avait un petit chien qui était un peu le, qui sonnait un peu l'heure de fin en fait. C'est-à-dire qu'elle ouvrait la porte, puis le petit chien il arrivait, et puis bon, on connaissait, c'était un peu la mascotte du salon. Donc, mais ça voulait dire que c'était fini. Voilà. C'était des clients normaux, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a plusieurs paliers dans les premières fois, et puis on a forcément toujours un client un peu difficile. Ça, c'est le premier client difficile. C'est vrai qu'on s'en souvient. Ça, j'avoue que c'est assez spécial et c'est difficile. Ça peut être une, ça peut être un physique, ça peut être une odeur, ça peut être une façon d'être. Bon, voilà quoi.
Vous, votre premier client difficile?
Je me souviens pas vraiment du premier client difficile, je me souviens de plusieurs, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant et je me mêle peut-être un peu les pinceaux, donc je sais plus lequel. Mais il y en a qui m'ont marqué, c'est clair. Il y en a, pas forcément dur, j'avais presque pitié pour eux, en fait. Un exemple, bon, j'ai peur qu'ils se reconnaissent, le pauvre. Mais disons qu'il avait une particularité physique un peu spéciale au niveau, comment je pourrais dire ça sans être, disons génital. Et c'est vrai que ça m'a un peu choquée. C'est vrai.
C'est-à-dire génital?
Génital, vous voyez ce que je veux dire, les
Non.
Il dit non, je suis sûre qu'il sait en plus. Vous voyez les parties génitales d'un homme intime, vous voyez, qui font, ça fait très mal si on tape dedans, vous voyez. Bah lui au lieu...
Les testicules.
Voilà. Il en avait une en fait seulement. Donc il avait un problème, je sais pas, il était malade ou je sais pas. Et c'est vrai qu'il avait, si c'était que ça, ça aurait été pas grave, mais il y avait tout un ensemble, il fumait des gitanes, donc il avait l'odeur de la gitane, il était très maigre, il avait une grosse barbe, il ressemblait un peu à entre Popeye et puis, je sais pas, Capitaine Haddock, vous voyez, un peu ce genre-là, quoi. Et mais il était très gentil, hein. Franchement, il était très, très gentil, mais c'était dur, quoi. C'était dur physiquement, pas moralement, vraiment, mais physiquement, c'était difficile, parce que je savais pas quoi faire, en fait, avec lui. Il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu un qui a eu des problèmes dans son enfance où il a. Mais ça, je sais pas si c'est encore le problème. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, il a eu un problème quand il était petit et puis il s'est fait chloroformer pour qu'on le soigne. Et puis en fait, il a eu une érection et depuis il fait qu'à ça, quoi. Et puis il faut qu'on le chloroforme aussi. Donc après, je pense qu'il prend des autres substances. C'est pas du chloroforme, évidemment. Mais c'est ça qui l'aide à jouer, c'est la situation.
Comment ça, il faut que vous le chloroformiez?
C'était juste l'acte, en fait, de mettre la nôtre sur son nez, puis de faire semblant qu'il était en train de se faire chloroformer par les infirmières, et puis il criait, il disait non, je veux pas, et puis voilà, c'est comme ça qu'il partait, quoi. C'était pas du chloroforme, on mettait un coton, mais je pense qu'il avait des autres produits, quoi. C'était, sinon il serait pauvre. Donc voilà, quoi, ça, c'est des petites expériences, quoi. Mais ils étaient gentils, c'est ça. Il y avait aucun, je suis jamais tombée sur un client méchant. Voilà, c'était que des clients gentils, mais avec des particularités que j'aurais peut-être jamais connues si je faisais pas ce métier, ça, c'est clair.
Je veux pas vous déranger non plus longtemps à la salle de bain, vous devez continuer à faire.
Je vais me maquiller un petit peu et puis m'habiller, voilà, quoi. Donc vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, hein.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ?
J'ai été serveuse dans un billard, j'ai été serveuse dans une pizzeria, j'ai été ouvrière d'usine, j'ai été vendeuse. Voilà, j'ai fait plein de métiers, quoi. Je me suis un peu touchée à tout.
Est-ce qu'il y a un client qui s'est proposé, qui vous a proposé de vous sortir de là ?
Oui, c'est le gros fantasme des hommes. C'est le fantasme à la Richard Gere. Je suis pas Julia Roberts, mais apparemment ça marche quand même. Et les clients, on se rêve de sortir la fille de là, mais je leur dis gentiment en riant que j'ai pas besoin de sortir de là parce que je suis rentrée dans nulle part, quoi. J'aurais aimé qu'un Richard Gere vienne me sortir de mon métier de vendeuse. Oui, ça j'aurais peut-être aimé, je l'aurais peut-être suivi. À sortir déjà.
On sort.
Ah ouais. Okay. Voilà. Juste ma robe, par là, voilà. Donc j'enlève la serviette, hein, donc je le dis. Hein.
Je ferme les yeux.
Ferme les yeux, voilà. Hop. Je vous laisse tout seul 2 minutes.
Olga, c'était pas son vrai nom. Elle l'avait choisi par hasard. Parce qu'il faut faire des concessions quand on arpente le trottoir. Elle aurait pas cru réciter en sortant de son couvent autant de bénédicité à genoux devant le client. C'était pas une vocation, mais en jeune fille bien élevée. Quand on vous trouve une profession, il s'agit de s'y appliquer. Alors elle y mettait du cœur, par principe et par respect, par souci, par rigueur, par amour du travail bien fait. Olga, la fille de joie, comme disent les bourgeois, qui confondent ton bonheur et le leur. Olga, Jésus avait sa croix, tu portes quant à toi le prix de tes charmes et le poids de ton cœur. C'était pas une pute ordinaire, mesdames, vos maris vous diront que quand ils vont se satisfaire, c'est quasiment par distraction. Non là, c'était inoubliable, intense, émouvant, magnifique, quelque chose de comparable à une communion mystique. Vous savez avec quelle vitesse on se demande parfois comment se propagent les bonnes adresses et les bons coups naturellement. En une sorte de défilé, médecins, avocats, généraux, ministres, évêques se passaient pour ainsi dire le flambeau. Olga, la fille de joie, comme disent les bourgeois, qui confondent ton bonheur et le leur. Olga, Jésus avait sa croix, tu portes quant à toi le prix de tes charmes et le poids de ton cœur. Olga.
Ici, dans cet immeuble, il est couteau porte. Alors, 2-3 fois, je l'ai attrapé. J'ai dit, maintenant, ça suffit d'écouter aux portes, hein. Tu vas te branler ailleurs, espèce d'abruti, va. Il vient toujours, il me dit, bonjour, comment ça va, Marilyn? Quand je le vois dans les escaliers. J'ai dit, t'as de nouveau écouté aux portes ou quoi? Ça suffit maintenant. C'est un type de 55 ans, à peu près. Il est taré. Enfin bon. On a de tout, hein.
Et puis, les...
l'instant.
On a de tout, elle dit Marilyn, dans ce quartier de Genève, bien connu à Genève, qui s'appelle les Paquis. On a de tout, et c'est ça qui nous intéresse. C'est cette... cette condition humaine, finalement, la nôtre, à tous, on est ainsi fait, c'est nous. Et elles nous connaissent particulièrement, sous un angle particulier, mais elles en savent long, et elles peuvent en dire long, pour peu qu'on leur pose des bonnes questions. C'est ce qu'a fait Sylvain Savolainen, en se baladant dans les rues de Genève, dans ce quartier populaire, mais... très bien placé par rapport aux grands hôtels de Genève, d'où parfois des gens très distingués ne répugnent pas à sortir pour venir s'encanailler dans ces ruelles. Il y a de tout, on a de tout.
Look at that. Look at that.
Thank you very much.
Bonjour. C'est combien, bonsoir?
100 francs.
Et pour 100 francs, qu'est-ce que...
Je fais l'amour et la paix pour les femmes.
Qu'est-ce que ça sera l'amour?
C'est... tu baisses mon chat, la derrière, d'avant, toutes les positions. Et je sais ça. On y va?
Ça fait combien de temps que vous êtes prostituée?
Ouais, ça fait depuis... si c'est pour mon premier client, je dirais en 69. Mais à Genève, c'est en 71 que j'ai commencé dans les hôtels. En 71.
Et qui c'est que vous avez comme client aujourd'hui?
Ah, moi, j'ai toutes les catégories sociales, hein. Je veux dire, ça peut être l'ouvrier portugais, comme l'avocat, le médecin, l'ingénieur. J'ai tout. Ça peut être votre frère, votre cousin, votre neveu, votre père, et votre grand-oncle. Mon plus vieux client, il a 93 ans.
Et alors, 93 ans, votre...
Ben, 93 ans, ben, figurez-vous, il peut plus pénétrer parce que, on a essayé d'ailleurs, mais là, il débande. Mais autrement, il va très bien, hein, il est encore ferme, il a jamais bu, jamais fumé, il est vaillant, comme on dit. Pour 93 ans, il est incroyable.
Ouais. Et, qu'est-ce que vous proposez, vous?
Aux clients? Ah, tous, ils sont généreux. Non, pas tout. Il y a certaines choses que je ne fais pas. Hein, la sodomie et la fellation sans préservatif, mais ça, je l'ai jamais fait, même avant les histoires du sida.
Pourquoi?
Parce que ça vient de mon enfance, mon beau-père qui m'a violée quand j'avais 6 ans. Enfin, violée, non, qui me faisait des attouchements et justement la fellation. Alors, j'ai quelque chose avec le sperme qui est un rejet naturel de ma petite enfance.
Votre premier client, vous en souvenez?
Ben écoutez, j'ai cru que c'était dans les hôtels en 71 à Genève, mais finalement, j'avais travaillé dans un bar montant en Belgique, mais je savais pas que c'était un bar montant, et ça m'excitait de voir les filles qui montaient avec les clients, et j'avais 19 ans, donc c'est en 69 exactement.
Qu'est-ce qui vous excitait?
Ah, l'idée de plaire et de se faire payer. Et moi, j'ai eu une mère nourricière qui s'est fait... comment on appelle ça? Elle a travaillé pour rien. Elle s'est fait exploiter par mon beau-père qui me violait. Et je trouvais qu'elle était lamentable, comme elle était faible. Et je me disais plus tard, si les hommes me payent, ce sera vraiment une revanche. Alors?
Et alors, comment ça se passe avec ce premier client?
C'était un homme de couleur. Et mon beau-père était raciste. Il était franc-maçon, mais raciste. Et quand il y avait des francs-maçons noirs qui venaient nous voir au restaurant, il les embrassait. Puis un jour, j'ai dit, mais tu m'as dit que tu n'aimais pas les nègres. Alors là, il m'avait puni pendant 2 jours. Il m'avait enfermé dans la chambre et tout. Et alors, justement, moi, ça m'excitait. Il y avait, dans les années 60-70, il n'y avait pas beaucoup d'hommes de couleur en Suisse. Alors, ça m'excitait de... Et puis, c'était un homme charmant, un Camerounais, classe, qui était beaucoup plus généreux que les autres. Et je me disais, mais en plus, ils ont plus de classe que les Blancs. C'est vrai. Alors, j'aimais beaucoup. Il était très tendre. C'est comme si j'étais sa femme.
Alors, comment ça s'est passé?
Ah, très positif. Je pouvais refuser à l'époque. Hein. J'ai pas de dette, j'avais pas de macro, j'avais pas... Donc, ça m'excitait aussi de faire un homme de couleur.
Et une première fois en tant que prostituée, ça va pas être facile?
Non, mais ça va, j'ai eu de la chance de tomber sur un Africain qui me demandait pas de fellation, qui me demandait pas des choses compliquées. Alors justement, c'est ça, je veux dire, les Arabes, les Africains, les gens des pays de l'Est aussi, certains, ils sont pas vicieux. Les Portugais non plus, c'est la pénétration. Alors moi, je préfère ça 1000 fois qu'un Français ou un Suisse ou un Allemand qui peuvent être parfois très vicieux, hein, alors que j'aime pas du tout, moi, le vice.
Vicieux comment?
Ah, vicieux, vous demandez, faire la salope, suce-moi bien, me tenir la tête quand je le suce. Je dis, stop là, moi je suis pas ton esclave. Hein. Alors, non, je veux dire, ils aiment bien humilier les femmes. Hein. Ils viennent aussi parfois pour humilier. Ils peuvent pas humilier la leur, alors ils humilient les putes. Mais avec moi, ça marche pas. Hein. Non, lui, c'était un homme délicat. J'ai plus une mandarine. Le matin, je mange des fruits et des protéines, les œufs et tout. Je fais un peu de régime en ce moment parce que parfois je fais pas de régime et j'abuse. Alors du beurre et du fromage, je suis pas à côté de la gruyère pour rien. Alors évidemment, je prends du poids et puis je me sens pas bien, mes articulations vont pas bien. Alors maintenant, je mange des fruits, des légumes et voilà. Et j'achète tout au magasin bio.
La première fois que vous prenez de l'argent, vous sortez de la chambre avec une première passe, vous dites ça y est, c'est fait, je suis une prostituée.
Ouais, mais moi j'étais déjà prostituée dans ma tête bien avant ça, parce que mon beau-père me le disait, t'es une pute, parce que quand je disais à ma mère qu'il me touchait, c'est une menteuse, c'est une pute. Et puis parfois on marchandait quand il me disait tu dis rien et puis je t'offre des bonbons, où tu dis rien ce qui s'est passé, et puis tu pourras faire ce que tu veux. Hein. Et comme moi, j'étais déjà éprise de liberté, alors je parlementais, donc je me suis sentie prostituée d'enfant très très jeune, hein, enfant.
Qu'est-ce qui a été le déclic pour pour cette première passe. Le concierge vous appelle, mais qu'est-ce qui était le déclic pour que vous, vous disiez c'est bon, ça y est, ok, je vais le faire cette fois-ci en tant que prostituée?
Ben, c'est que j'étais ambitieuse pour prendre un petit salon de coiffure, donc j'avais besoin d'argent. Alors, la manière la plus facile, c'était de louer son corps. Moi, je vends pas mon corps, je le loue. Alors, voilà, je dis toujours, je suis en leasing, moi.
Alors, qu'est-ce qui est difficile
C'est le premier rapport, c'est déjà de les faire payer, parce que maintenant, en plus, on est dans une crise économique un peu, alors c'est plus difficile. Alors après, bon, c'est quand on les met, déjà, aller leur faire laver les mains, ils vous donnent l'argent. Moi, j'ai un gynécologue, il m'a dit, c'est important de leur faire laver les mains, après, ils touchent l'argent, alors ils vont à la salle de bain, et à peine ils se touchent. J'ai dit, c'est comme des enfants, il faut les accompagner. Un instant. Je ferme la porte. Alors, vous m'attendez, hein?
C'est un client, ce client?
Oui, c'est un client. Vous allez voir le nombre de minutes que je vais faire pour ma passe. C'est un petit mignon jeune.
Alors c'est parti, là il est quelle heure? Voilà. Alors là il est moins 20.
Oui, voilà, dans 10 minutes je suis là, même pas. À tout de suite. Si vous voulez aller aux toilettes ou quelque chose comme ça, parce que je vais aller le faire dans un studio de ma copine, vous m'ouvrez, je prends pas les clés. Hein, je sonne deux fois.
Ça marche. Tout de suite.
Il m'a donné 200 francs et puis je dois lui rendre 50 francs. Alors une minute.
Ben, vous voyez, c'était vite fait. Vous prenez sur le gaz, comme on dit.
Hein? C'était vite fait, ouais. C'est pile 10 minutes.
Hein, vous voyez, et il a mis plus de temps pour se déshabiller que pour baiser. Alors, c'est un petit jeune, très sympa. Je lui rends 50 francs. J'ai essayé de demander les 200, mais faut pas exagérer. Vous avez vu combien de temps j'ai fait. Et puis surtout pas vicieux. Voilà. Très très mignon, 27-28 ans, très mignon.
Et votre argent, c'est dans une boîte à thé?
Oui, dans une boîte à thé. Oui, pourquoi ça? Oui, ça. Parfois quand je vais à la banque, on me dit, oh, mais ça sent le thé. Je dis, oui. Voilà, vous voyez, c'était vite fait, pas pénible, pas lourd, vous voyez, quand même, ça existe. Hein. Quand ils viennent pour une passe, enfin, ils sont déjà tellement excités. Hein, et puis, c'est un jeune, les vieux, c'est plus long, hein, évidemment. Et puis, mais grâce à Dieu, comme moi, j'ai vieilli, alors j'ai plus de jeunes. Et j'aime mieux les jeunes, l'énergie d'un jeune que l'énergie d'un vieux con, quoi. Alors, il était déjà très excité. Puis bon, moi, je fais tout pour les exciter. C'est mon travail, hein. Comme je savais que vous étiez là, je voulais pas... Comme il était assez mignon, j'aurais pu perdre plus mon temps, c'est vrai. Puis voilà, puis il m'aurait donné sûrement 200 francs au lieu de 150. Mais il reviendra. C'est l'histoire qui revienne. Alors voilà. Voilà. Moi, je me considère comme une infirmière de la sexualité publique. Pour moi, la prostitution, c'est avant tout un rapport humain.
Alors là, par contre, je vois votre annonce. C'est quand même pas tendre, urologie, fist fucking, fessé, sadomasochisme et autres fantasmes.
Bon, tout ça, c'est fait avec préservatif, de toute façon. Le fist fucking, c'est fait sur les messieurs. Il y en a beaucoup qui...
Moi, je... Ah, c'est vous qui le faites?
Oui. Moi, je mets ma main dans leur... Je les sodomise avec ma main. Hein? Alors, c'est des bons pères de famille, hein, ils sont pas homosexuels pour autant, mais ils adorent, ça touche la prostate et tout, mais il y en a qui veulent vraiment, qui ont eu des rapports bisexuels et qu'ils ont, comment, un arrière-train très, très ouvert, comme on dit, n'est-ce pas? Et puis donc, je fais donc l'urologie. Qu'est-ce que vous voyez? Sadomasochiste très léger. Vous voyez bien que mon studio n'est pas, comment, arrangé pour faire, il n'y a pas la croix, il n'y a pas, alors je fais, c'est plutôt subtil, c'est cérébral.
Il y a même des bâtons d'encens, il y a Shiva, enfin.
Oui. Chez moi, il y a pas. Non, le sadomasochisme hard, ça m'intéresse pas. Je veux pas le faire. Moi, j'avais une collègue de travail qui l'a fait pendant 25 ans, mais elle avait une pièce tout arrangée et tout vraiment. Elle a fini par se pendre dans sa pièce. Elle s'est suicidée parce que ça rend dingue. Je veux dire. Alors moi, je suis dingue, mais pas folle. Hein. Alors, je veux dire les limites. Non, c'est surtout cérébral et des subtilités. Alors ça, j'aime bien.
Et puis il y a marqué justement « et autres fantasmes », trois petits points.
Par exemple, j'ai un de mes clients qui est juif, il est jeune, il a 38 ans, il aime que je lui dise, il me téléphone, il me dit « bon, j'arrive, alors je dois m'habiller en bourgeoise, et puis je dois être la mère, je dois être l'amie de sa mère ». Et puis, c'est de baiser l'ami de sa mère, ça l'excite, vous voyez, ça c'est des fantasmes un peu étranges, mais... Et le type, il a pas 60 ans, hein, il a 30, je l'ai connu à 30 ans d'ailleurs, quand il avait 30 ans. Alors voilà, alors d'autres fantasmes, c'est par exemple d'attacher un client, je l'ai attaché au radiateur à la salle de bain, j'ai fermé la porte à clé, puis je suis allée faire mes commissions pendant 2 heures de temps. Alors voilà, vous voyez, ni plus ni moins. Non, alors, il y en a 1012 des fantasmes, hein, 1012. Et puis, c'est leur faire pipi dans la bouche ou sur le sexe, ça s'appelle l'urologie. Enfin, il y a un autre terme, paraît-il, que l'urologie, c'est plutôt médical comme terme. Mais enfin, bon. Et puis, bon, il y en a qui demandent des excréments, ça s'appelle, quand vous voyez dans le journal, le caviar, comme elles disent les filles, c'est donc...
Le caviar.
Le caviar, oui, vous savez ce que c'est?
Dites-moi.
Alors, c'est justement, comment on appelle, c'est pas l'urologie, c'est...
Scatologie.
La scatologie. Hein. Moi, j'ai visité la maison d'Annunzio au lac de Garde, lui, il le faisait très couramment. Hein. C'est les grands intellectuels qui demandent ça, il faut pas croire que c'est l'ouvrier portugais qui va demander ça. Alors ça, je fais pas, c'est tout. Moi, urologie, ça me dérange pas, moi, alors pisser dessus, j'en ai rien à foutre. Mais la scatologie, non, puis non. Mais j'ai une ou deux amis qui le font. Un instant, j'ai un téléphone. Voilà. Bonjour. Non, dans 5-10 minutes, non. Pas avant midi. Ouais. Voilà. Ouais, 11h30, si vous voulez. Voilà. C'est à partir de 100 francs minimum, hein. Voilà. Et puis... avec 100 francs, on peut pas avoir l'Amérique, hein. 100 francs, c'est rapport fellation, massage érotique. Voilà. Au revoir. À tout à l'heure, ouais. Il y en a beaucoup qui téléphonent et puis qui viennent pas, hein. Ou ils se branlent au téléphone, ou ils aiment bien embêter les filles. Je crois que ça les énerve, les hommes, les clients, ils ont l'impression qu'on gagne plus facilement l'argent qu'eux. Alors, oui, mon premier client, non, l'homme beau, parfait, tout, bon, il y en a, hein. Moi, j'ai eu des playboys, hein. C'est vrai, alors, quand je vois des fois le mari de mes copines, je me dis, je préfère mes clients, hein. Et puis moi aussi, des fois aussi, quand j'ai eu des amants, c'était pas des playboys, hein. Alors, non, moi, j'ai des gens très beaux, mais j'ai aussi des très moches, hein, des très moches. Mais bon, la mocheté, moi, ça me dérange pas. Hein. C'est pour ça que les gens, ils croient qu'on a que des moches, des vieux ou des... Non. Alors ça, il faut bien se mettre dans la tête qu'on a tout, hein. Tout.
Écoute donc, chérie, viens donc par ici. Le boulevard est sombre. Regarde comme c'est noir. On ne peut rien voir. C'est tout rempli d'ombre. T'as l'œil polisson. Ah, tu dois être mignon, toi, hein, quand tu nous embrasses. Chérie, va écoute donc, va t'en va pas, voyons. Va donc, et carcasse. Des fois je pense faudrait mieux crever. La femme ne peut jamais se relever de sa première chute. Et de chute en chute, elle va cherchant à se cramponner jusqu'à ce qu'on la rebute. Elle donne son cœur contre un serment confiante aux promesses d'un amant qui la transporte. Quand l'amour n'est qu'un grand bazar dont les rayons sont au hasard remplis Camelot. Écoute donc chérie, viens donc par ici. Ah, ils se cavalent en douce. Ils sont bons à tuer, à vous dégoûter d'en fiche une secousse. Oh, le temps n'est pas chaud, oh, ça vous pique les os, et j'ai la tremblote. Mes pauvres pas sont lourds. Oh, crête-cochon d'amour. Oh mince, v'là qui flotte.
Qu'est-ce que c'est ce bip-bip?
C'est le James.
Et qu'est-ce que c'est le James?
C'est ce qui me permet d'avoir de la musique, d'avoir de la télé, vidéo, chaîne-fi.
Et comment tu contrôles ça avec...
Avec la tête.
Comment?
Un bouton à droite de ma tête.
Donc sur la tempe, c'est ça?
Exactement.
Et avec le menton, par contre, c'est le menton?
Pour conduire.
Pour conduire, c'est le menton?
Voilà, exactement. Bah alors, je vous dis pas, au tout début, c'était pas triste. Je crois que les murs là souvent et puis les pas de porte s'en souviennent. Je me les prenais tous.
Et pour faire avancer le fauteuil?
C'est avec le menton.
Comment ça?
J'appuie avec le menton. Si je vais aller à gauche, je vais sur la gauche. Si je vais aller à droite, je vais sur la droite. En avant, c'est contre moi, et en arrière, c'est en avant.
Et donc, rien avec les mains, tu peux pas bouger les mains?
Je bouge les mains.
Juste les doigts?
Ouais, mais pas assez pour aller à la commande manuelle, quoi.
T'as les mains, t'as les bras posés sur tes coussins, c'est pour le confort, c'est ça?
Voilà, exactement. Tout à fait pour le confort.
Tu étais prostituée, on est dans une institution pour accidents neurologiques. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette institution? Qu'est-ce qui t'a mis dans ce fauteuil?
Eh bien, tout simplement une agression qui s'est passée le 27 octobre 2000. Ça devait être aux alentours des 5h30 du matin. Et puis, j'ai fait une passe, en fait, à un client très jeune pour 30 francs vu l'heure. Donc, il n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai fait pas très cher. Et puis... ce cher jeune homme ne venait pas parce qu'il avait beaucoup bu. Je pense que même il s'était drogué. Donc j'ai fait à peu près une heure de fellation. Pour finir, j'en ai eu marre. J'ai voulu partir. Il m'a rattrapé. Il m'a mis une monstre claque qui m'a éclaté le tympan. Je tombais dans les pommes. Il m'a tiré dans le hangar. Ensuite, il m'a violée, battue. J'avais une tête, mais à l'époque, je pesais 45 kilos. Dans les photos, j'ai l'impression d'en faire 90. Et puis, tout ce qu'il m'a fait, en fait, je l'ai jeté dans les pommes. Et puis, en fait, j'ai eu un trouble. J'ai eu un écrasement du nerf entre la C2 et la C3, c'est la deuxième et la troisième vertèbre. Heureusement, ça n'a été que compressé. Donc, j'ai toutes les sensations de mon corps et je suis même en train de récupérer. Mais il faut beaucoup de temps pour récupérer. Maintenant, je me tiens debout pour le transfert. Ça, il y a 2 ans en arrière, j'étais incapable de le faire. Et je récupère petit à petit. Jusqu'au jour où j'étais chez le directeur, j'ai levé mon bras, je touche mon front. Puis je dis, je touche du bois. Les 3 sont restés la bouche ouverte. C'était trop joli à voir ça.
Et t'étais prostituée, enfin, c'était ta seule activité?
Oui, parce que... question toxicomanie. Parce que je n'avais aucune envie de faire de casse, de vol ou de deal.
T'étais toxicomane?
Oui, j'étais une pas mal toxicomane, je dirais. Une grande toxicomane. Parce que je n'ai franchement pas une enfance très, entre guillemets, drôle. Ça a commencé à l'âge de 8 ans. Je l'ai caché à ma mère, à mes frères, à mes sœurs. Parce qu'il m'a dit, tu le dis à qui que ce soit. Je tue tes frères, tes sœurs, ta mère et tout le monde. Donc, je n'ai jamais osé en parler. Je l'ai gardé, je l'ai avalé. Et puis, j'ai voulu oublier tout ça en me droguant. Puis ensuite, la drogue m'a amené à la prostitution. Donc, c'est pas... Je dirais que c'est pas folichon, quoi. Essayez d'oublier. Parce que quand on se drogue, on oublie. Mais dès que l'effet n'est plus là, ben, boum, c'est encore pire. Donc, on se redrogue. Et c'est une histoire sans fin, quoi.
Merci, Plume. Merci, Pamela. Merci, Marilyn. Reporter Sylvain Savolainen. Et on les retrouvera demain. On retrouvera d'autres de ces filles, de ces femmes qui travaillent au Paquis dans ce quartier de Genève à l'occasion de la republication de deux livres de Griselidis Réal, Carnet de bal d'une courtisane, et suivi d'une petite chronique des courtisanes et autres textes aux éditions verticales. Elle sera reçue demain. Elle sera chez Frédéric Bonneau, justement, Griselidis Réal. Et donc ensuite, on l'évoquera à nouveau dans cette émission technique. Sandrine Laurent et Patrick Henry, réalisation Antoine Chao, assistant Yann Chouquet, Pascal Le Pascariello et Christophe Imbert complètent l'équipe brillante de la base. J'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 0156 40 37 37, 0156 40 37 37. Le mail, daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve donc demain à 17h. Vous avez 25 secondes de pub, puis Frédéric Bonneau et Charivari. Salut.